Au service de Dieu et des hommes, un documentaire sonore de Franziska Grohmann.
Je suis Jean Stahl et je suis depuis un peu plus de 40 ans prêtre dans le diocèse de Strasbourg. Alors j'ai plusieurs responsabilités comme la plupart des prêtres aujourd'hui. D'une part, je suis curé d'une communauté de deux paroisses à Strasbourg dans le quartier de l'Esplanade, les paroisses du Christ ressuscité et de la Très Sainte Trinité. Je suis dans cette responsabilité depuis 10 ans maintenant. Et par ailleurs, je suis responsable d'un service diocésain du diaconat permanent. Nous avons en Alsace près de 88 ou 89 diacres permanents et je suis responsable de leur accompagnement, de leur formation, etc. J'étais encore lycéen lorsque je me suis posé la première fois la question d'envisager de devenir prêtre. C'était en 1968. Et mai 68 a été décisif d'ailleurs pour me poser cette question. En mai 68, j'avais 17 ans, j'étais au lycée, en classe de première. J'étais, comme beaucoup d'autres, très engagé dans les événements qui se passaient. Je faisais partie d'un mouvement de jeunes qui s'appelle la JEC, la Jeunesse étudiante chrétienne, qui était très impliqué dans les événements qui se passaient. Nous étions très ambitieux, nous avions l'ambition de réformer complètement l'éducation nationale, la vie du lycée, des lycéens. C'était peut-être un peu naïf, mais c'était aussi très formateur, notamment au plan politique. Et j'ai envisagé à ce moment-là, j'y pensais déjà un peu avant, un engagement plus tard dans la vie politique, et puis je me suis posé la question d'un engagement peut-être plus radical au service de l'Église. À l'époque, bien entendu, je n'imaginais pas du tout devenir un jour curé. C'est certainement un ministère qui ne m'intéressait pas pendant très longtemps. Je suis entré en formation à l'université et au Grand Séminaire de Strasbourg à l'automne 1969. Sans avoir du tout de projet précis. Ce qui m'intéressait, c'était de me mettre au service de l'Église, au service des hommes et des femmes. Ce qui m'a toujours passionné dans ma vie de prêtre, mais cela va au-delà des tâches particulières que je suis amené à remplir, c'est la rencontre des personnes, c'est le dialogue avec les personnes que je rencontre à différentes occasions. Notamment, alors, aujourd'hui par exemple, cet après-midi, je vais célébrer des funérailles d'un monsieur, j'ai rencontré la famille de ce monsieur décédé. Nous avons ensemble évoqué la personnalité de ce monsieur, que je connaissais d'ailleurs, sa vie. Nous avons préparé la célébration de ses funérailles. C'est passionnant de vivre des moments comme cela de rencontre. Dans un moment triste comme la préparation de funérailles, comme dans des moments aussi très joyeux. Et puis dans la vie habituelle aussi, c'est passionnant de se retrouver comme prêtre avec une assemblée de personnes qu'au fil des années, on connaît de mieux en mieux pour célébrer l'Eucharistie du dimanche par exemple. J'ai devant moi des gens qu'au fil de l'année, j'ai appris à connaître. Et ce n'est plus une assemblée anonyme qui se trouve autour de moi. Nous sommes vraiment une assemblée dont les différents membres et moi-même, nous nous connaissons bien.
Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde, Et donc tu connais la droiture de prix. Je confie particulièrement monsieur et madame Téla, ainsi que monsieur et madame Martin. Reçois-les dans ton royaume.
Depuis que je suis prêtre, je n'ai jamais exercé une seule mission. J'ai toujours eu, de la part de mon église, de la part de l'évêque, plusieurs missions. Donc j'ai toujours pu bénéficier, je crois que c'est vraiment un enrichissement, de manière très différente de vivre ma vie de prêtre simultanément, dans des responsabilités très complémentaires. Je me souviens, il y a déjà de longues années, un enfant, un petit garçon me demandait si j'aimais mon métier et si ça n'était pas lassant de vivre le même métier toute sa vie. Je lui ai répondu que je n'ai jamais vécu très longtemps le même métier. Je suis prêtre depuis longtemps, mais j'ai exercé des métiers très différents au long de ces années. Certains très territoriales, comme curé de paroisse, ça ne m'est arrivé que deux fois, et d'autres qui étaient davantage fonctionnels, qui n'étaient pas liés à un lieu forcément précis. Dans toutes ces responsabilités, personnellement, j'ai toujours veillé, dans la mesure du possible, à demander à avoir des mandats. Mais je crois sain de ne pas trop longtemps durer dans une même responsabilité, de vivre des responsabilités auxquelles nous sommes appelés pendant quelques années, le long d'un mandat, et après de retrouver un autre type de responsabilité. Je n'ai jamais non plus imaginé mes responsabilités comme étant des responsabilités devant tracer une ligne de carrière, ce qui pouvait parfois être interprété par quelques-uns comme étant l'objet de questions. Tiens, mais tu redeviens curé? Qu'est-ce que tu as fait pour? Moi, j'apprécie beaucoup le fait de pouvoir accepter une responsabilité, tâcher de bien la vivre pendant le mandat qui m'est donné, et puis ensuite, voilà, retourner dans un autre type de responsabilité. Pour moi, elle ne se situe pas l'une au-dessus de l'autre. Ça devient plus difficile aujourd'hui parce que nous sommes moins nombreux numériquement. Et donc, même si le curé est théoriquement nommé pour 6 ans au service d'une paroisse, voilà, au bout de ces 6 ans, il faut bien vérifier aussi et voir que très souvent, un deuxième mandat est nécessaire. 6 ans, c'est peut-être un peu juste aussi pour bien connaître les habitants d'un quartier et se mettre à leur service comme curé. Moi, je suis par exemple ici depuis 10 ans. Au bout de 10 ans, je me dis, voilà, peut-être que maintenant le moment est venu aussi de passer le relais à quelqu'un et de faire autre chose. Mais pour bien connaître les personnes qu'on veut servir, il faut aussi du temps.
Celui qui appelle son père et qui nous invite à prier avec lui.
Devant un certain nombre de situations qui peuvent poser des questions, parce que des personnes vivent selon des réalités qui ne correspondent pas à ce qui normalement devrait être vécu, selon certaines normes. Moi, j'ai toujours été, rien n'a jamais changé pour moi là, toujours été plus attentif aux personnes qu'aux normes. Et dans ma responsabilité de prêtre, ma première responsabilité, c'est d'aller à la rencontre des personnes ou de les recevoir, et de les entendre et de les respecter dans ce qu'elles sont et dans ce qu'elles vivent. Je n'ai jamais personnellement provoqué de conflit à ce sujet. y a des personnes qui, par exemple, matrimonialement, sont dans une situation qui n'est pas tout à fait conforme à l'idéal que propose l'Église et à l'idéal du sacrement de mariage. Ça n'est pas une raison pour les exclure de la vie de la communauté. J'ai été heureux de voir là aussi que le pape François a lui-même demandé à toute l'Église d'être dans cet état d'esprit. Moi, je l'ai toujours été, donc ça n'a rien changé pour moi. Il m'est arrivé, en revanche, je me souviens une fois où j'ai demandé à une personne qui était en train de divorcer de son mari, dans des conditions qui étaient, voilà, qui étaient dures, et alors qu'elle demandait que des personnes de la paroisse, ce n'était pas ici, prennent position pour elle contre son époux. J'ai dit, écoutez, dans cette situation-là, je vous demande de ne pas intervenir officiellement dans la vie de l'Église, de la communauté, parce que vous êtes en train de demander à une communauté de prendre parti. Et cela, nous ne pouvons pas le faire, moi le premier. C'est la seule fois où j'ai concrètement demandé à quelqu'un de s'abstenir de vivre certaines responsabilités dans une paroisse, parce qu'elle demandait que la paroisse, pratiquement, prenne fait et cause pour elle contre son mari. Ça, je ne pouvais pas l'accepter. Je suis d'une génération qui n'a jamais voulu se référer simplement à des traditions, à des habitudes, et qui a toujours cherché à faire les choses d'une autre manière. Moi, je suis resté dans un état d'esprit où je suis plus heureux quand les choses ne sont pas absolument cadrées, absolument définies, quand l'avenir n'est pas absolument imaginable. Je me rends compte, les générations plus jeunes qui n'ont pas vécu ce type de parcours aiment beaucoup plus se référer à un passé, se référer à une tradition, aiment davantage aussi pouvoir être sûrs d'un certain nombre de choses qui sont bien établies, bien définies, aiment aussi, je crois, être un peu... peut-être rassuré par rapport à l'avenir. L'un des signes évidemment les plus visibles, c'est précisément la visibilité de signes religieux ou de signes qui indiquent l'état clérical. La plupart de mes jeunes confrères aujourd'hui portent par exemple un col romain. Cela ne m'est jamais arrivé. Peut-être que là aussi, une différence existe entre une génération qui a voulu, la mienne, être présence au nom de l'Église et du Christ, présence dans le monde en se fondant un peu dans la foule, par rapport à la nouvelle génération de chrétiens, peut-être pas seulement de prêtres, hein, qui veulent davantage, dans la société, pouvoir être immédiatement vus comme étant des chrétiens, des prêtres, et cela passe du coup nécessairement par des signes qu'il faut porter.
Chers amis, ceux et celles d'entre vous qui reçoivent le bulletin paroissial, papier ou internet, savent déjà qu'avec l'équipe d'animation pastorale, je vous proposerai dans 15 jours de réfléchir à l'avenir de notre communauté. À l'horizon 2028, c'est dans 10 ans, mais les années passent.
Je crois que l'Église vit dans des conditions qui sont très nouvelles et qui viennent la bousculer. Alors il y a des défis qui sont d'ordre simplement, j'allais dire, numérique, le nombre de baptisés pratiquants, comme l'on dit en sociologie, est nettement moindre qu'autrefois. Donc l'Église est composé de communautés plus réduites. Qu'est-ce qu'on appelle pratiquant? Aujourd'hui, on appelle pratiquant des personnes qui vont une fois par mois à l'église. Autrefois, on appelait pratiquant les gens qui y allaient chaque dimanche. Ça se vérifie par exemple avec le nombre de messes dominicales moindres. Ici, dans le quartier où je suis, avec notre communauté, nous avons une messe le samedi soir et une messe le dimanche matin. Ça suffit amplement. Lorsque je suis arrivé comme prêtre, mais à l'époque il y avait encore un collaborateur, il y avait un deuxième prêtre. Nous avions deux messes le samedi soir et deux messes le dimanche matin. Nous sommes aussi dans une situation où les prêtres sont beaucoup moins nombreux qu'ils ne l'étaient autrefois. Les jeunes qui demandent à se former pour devenir prêtres sont beaucoup plus rares qu'il y a encore une vingtaine d'années. C'est une évolution qui a quelque chose de positif parce que l'Église est devenue moins cléricale, mais c'est aussi une difficulté parce que l'Église doit pouvoir découvrir comment faire vivre des communautés avec beaucoup moins de prêtres. Il y a heureusement beaucoup de laïcs baptisés qui prennent sans doute bien davantage de responsabilités dans l'Église qu'autrefois.
Et tout cela, je le fais à cause de l'Évangile pour y avoir part, moi aussi. Parole du Seigneur.
Ce sont des choses qui évoluent. Alors après, il y a une autre évolution qui est très générale dans l'Église, dans les Églises, je crois, parce que lorsque je suis très souvent en lien avec les paroisses protestantes, par exemple, de Strasbourg, leur évolution est tout à fait semblable. Il y a moins de personnes qui participent activement à la vie de leur église. En revanche, j'ai l'impression que celles qui participent à la vie de leur église le font vraiment activement, plus peut-être que dans le passé. Je crois que peut-être qu'on a même pendant longtemps vécu sur une certaine illusion. On pensait que l'essentiel pour être aujourd'hui témoin du Christ dans la société, dans le monde, c'était d'être nombreux et d'avoir des églises pleines. Jésus n'a jamais dit à ses apôtres, allez remplir des églises. Je crois qu'il nous a sans cesse rappelé qu'il nous faut être sel ou lumière pour apporter quelque chose de fondamental, ce qu'on appelle une bonne nouvelle, pour la vie des hommes et des femmes autour de nous. Et pour cela, on n'a pas nécessairement besoin d'être très nombreux. C'est la qualité de notre participation à la vie de notre monde qui est essentielle, c'est la qualité de notre présence, de notre solidarité, de notre action quotidienne qui est essentielle. Je préfère savoir que dans notre communauté de paroisse, un certain nombre de personnes sont engagées, par exemple, dans l'accueil de personnes réfugiées, dans des associations qui promeuvent l'insertion des femmes dans la société, dans des associations qui permettent à des étudiants étrangers, arrivés ici dans des conditions souvent extrêmement pénibles et difficiles, d'apprendre le français, de s'insérer dans la société. Nous-mêmes en paroisse, nous avons mis un appartement à disposition d'une famille de réfugiés syriens. Cela me paraît plus important comme témoignage que de remplir l'église dimanche matin.
C'était Au service de Dieu et des hommes, un documentaire sonore de Francesca Grumman, avec la participation de Jean Stahl. Musique du générique, Pierre-Olivier Chaput, mixage, Marine Angers, Centre universitaire du journalisme.